9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Ah non, mais qui a laissé traîner son autotest sur son bureau, là?
C'est le bureau de Guillaume.
Quoi? Quoi? Il est positif!
Oh non!
Mais il comptait nous prévenir! Mais dites-moi que je rêve, là!
Mais je crois que le message est clair, Charlie!
Quoi? Mais on n'est qu'à contact?
Non, dans le nouveau protocole, non!
Bon, ben, cellule de crise, là, allez!
Ok, on va faire un point, Olivier Véran, sur les forces en présence!
Voilà, alors, le reste de l'équipe permanente, on en est où?
C'est pas brillant!
Les attachés de production?
On en a un qui est covidé!
Ah!
Et l'autre qui remplace celui qui est covidé?
Mais qui le remplace?
Bah.
Et le rédacteur en chef,
non,
alors?
Non, il attend toujours!
Ah, son résultat?
Non, la covid!
Ah! Bon, okay. Ben voilà une bonne nouvelle!
Oui.
Bon, à part ça!
On a deux cas contact.
Quoi, les chroniqueurs?
Il y en a un qui est venu vendredi, qui pense être positif, et Émeric Lompré, qui a déjà annoncé sur Insta qu'il était positif.
Pas mal, et on en perd un, là.
Oui, mais Jamil Lechlag sort de sa période d'isolement.
Ah, donc lui, on le récupère.
Oui.
Bon, ça va. Jusqu'ici, tout va bien.
Qu'est-ce que tu fais?
J'applique le protocole sanitaire de niveau 2, où j'ouvre les fenêtres.
Charline, il n'y a plus personne.
Hein?
Il faut se rendre à l'évidence.
Non, on gardera la classe ouverte, quoi qu'il en coûte, ok?
10h, dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis!
Mais t'as pas le Covid, toi?
Ah, je vous ai bien eu, la vanne avec la ligne noire, je l'ai mise au stylo, c'était une blague.
Non.
Excellent.
C'est pas excellent du tout, ça. Bah, non, c'est pas excellent.
Bah, il y a des choses avec lesquelles on plaisante pas, ok?
Voilà. Allez, une feuille blanche à stylo, tu me copies 100 fois, il est interdit de trafiquer son autotest.
Ah, il est nul, ce sketch.
200 fois. France Inter et bienvenue en République démocratique de la blague. Voici la devise du jour, un problème sans solution est un problème mal posé, par Jean-Michel Blanquer. Einstein lui-même le savait déjà à l'époque. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Vous poursuivez la lecture d'un classique suédois, de la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, Selma Langerlöf, avec le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède.
Ça, c'est intéressant les Suédois, ils ont une sensibilité à fleur de peau.
Redites-le parce que votre suédois. Tout le monde a repéré que votre suédois n'était pas excellent.
Alors, Selma Lagerlöf.
Et ben voilà,
Et un merveilleux voyage de Nils Holgersson.
Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Grâce aux vertus pédagogiques de l'humour, vous expliquez le monde aux enfants, mais.
Oui.
À travers les propos de l'homme de la rue. C'est là que ça se corse. Quel sujet?
Eh ben alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le protocole sanitaire à l'école, mais pas grâce à l'homme de la rue, grâce justement à deux enfants que peut-être vous allez reconnaître, on ne sait pas.
C'est Alfred et Gaston.
Et Gaston.
Il se fait kidnapper par Guillaume Meurice.
C'est le plus jeune comeback de l'histoire.
Excellent. Quant à celui qui nous offre la Jupi Masterclass de cinéma aujourd'hui, il est acteur et réalisateur, Lucien Jean-Baptiste. Bonjour.
Bonjour à la France Inter, c'est ça.
Vous connaissez les codes.
Ouais.
Vous partagerez avec les auditeurs votre amour pour les films de héros,
oui.
Dont Tarzan, Histoire,
oui.
Par exemple. Ah oui, histoire de faire un tour dans la jungle, non? Ça me dit pas.
Au bout de 3 mois, j'aurai perdu le langage. On me retrouvera à 4 pattes en train de grogner.
Ah. Merci Alex Vizorek, c'est à vous.
Oui, non, je n'y suis pour rien, je ne grogne jamais. Charline Van Wanaker, vous me connaissez. Je vous présente en revanche le reste de l'équipe. On commence par celle qui n'a pas sa langue dans sa poche pour parler de sa langue qu'elle ne donne pas au chat. C'est Laëlia Véron, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi allez-vous nous parler?
Eh bien, je vais répondre à une suggestion de Charline. On va parler de procédés d'insistance, de reprise et un peu de Jean-Michel Blanquer.
Toujours répondre aux suggestions de Charline. Ensuite, celle qui aime l'Olympique de Marseille et le violon, même si seul l'un des deux lui a donné beaucoup de satisfaction dans sa vie, c'est Marina Chiche, bonjour.
J'en peux plus. Il faut faire quelque chose.
C'est du boulot hein, pour en arriver là. De quoi allez-vous nous parler?
Moi, je vais vous parler de valse, mais pas manuel.
Très bien. Et enfin, celle qui revient du Sénégal, la lionne indomptable de la chronique, Rukiata Weraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi allez-vous nous parler?
D'invasion.
D'invasion, très bien. Ajoutez à ça un journal comme une satire, des exercices à n'en plus finir et un dessin pour vous subvertir et vous obtenez l'émission du premier jour des soldes. Tout doit partir.
Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclasse.
Au boulot.
Les lions indomptables, c'est pas le Cameroun plutôt, Alex?
Ah ouais.
C'est les lions de la Serengeti.
C'est les lions. T'as repris sur le foot par ça.
Si vous voulez, moi la canne n'a aucun secret pour moi.
Sur ce, je crois que je vais quitter la vie médiatique. Je vais faire Lionel Jospin, merci, sur cet échec.
Et bien sûr, Lucien Jean-Baptiste, heureusement que vous êtes là aussi.
Oui, il ne faut pas confondre la Cannes et le Festival de Cannes. Voilà, c'est possible, la confusion.
À propos, tiens, on peut vous voir actuellement à l'écran, oui, dans la fameuse série La Petite Histoire de France sur W9. Quel personnage, quelle période?
Alors, je fais Hector Mondésir, l'époque napoléonienne. Voilà, je suis une espèce de Toussaint Louverture New Age qui vient défendre les opprimés. Voilà.
Et puis en ce moment, vous cherchez le casting de votre prochain film.
Oui, oui, oui. Et je fais un appel. Je vais en profiter. Hein. Je paye des impôts. Je cherche un acteur de 60 ans très connu. Voilà, j'en ai eu un certain nombre qui veulent pas jouer avec moi pour l'instant. Mais je me bagarre. C'est un film qui s'appelle Et maintenant. C'est un mec de 60 balais qui ne veut pas vieillir. Voilà. Donc l'appel est lancé et merci.
Le cachet est bon.
Ah, énorme.
On va recevoir un texto d'Hippolyte Girardot.
Ah oui, Hippolyte. Ah, mon Hippolyte. Bah oui, il est pas là.
Et on a Popek aussi qui se... déjà deux candidats.
À quel stade
le scénario est terminé, ouais. Et là on est vraiment en période de casting, donc on cherche ce rôle principal pour rassurer les financiers et voilà. Donc on en est là.
Ah, ils ont besoin d'être rassurés, les financiers.
C'est normal, je les comprends, l'argent ça coûte cher.
C'est des grands inquiets.
Oh, c'est beau ça.
Ils sont des grands inquiets, et oui, que voulez-vous. Et le film s'appellera Et maintenant, c'est
Et ça maintenant, oui, d'accord. Oui, parce que j'en ai marre de utiliser toutes ces notions qu'on entend, le monde d'après, d'avant. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est
très
tout.
Bien. Eh bien, Lucien Jean-Baptiste avec nous. Et à la fin de cette émission, bien sûr, sa Jupi Masterclass. En attendant, voici celle qui occupe le seul siège de l'Académie francophone de Par Jupiter, la linguiste et stylisticienne Laëlia Véron.
Merci Charline. Aujourd'hui, je vais vous parler d'emphase, c'est-à-dire des procédés d'insistance, d'accentuation. Prenons une phrase standard, par exemple. Blanquer a annoncé son plan de rentrer la veille au soir dans un article payant du Parisien. Parce que je choisis des exemples neutres, hein, n'est-ce pas? Il y a une grève jeudi, en fait. Si je veux mettre en relief un constituant spécifique de cette phrase, j'ai plusieurs moyens à ma disposition. J'ai soit l'intonation, Blanquer a annoncé son plan de rentrer la veille au soir dans un journal payant. Vous voyez bien ce que je veux accentuer. Mais on a aussi la dislocation, c'est-à-dire lorsqu'un constituant est détaché en tête ou en fin de phrase et repris ou annoncé par un pronom. Le plan de rentrée, Blanquer l'a annoncé la veille au soir dans le Parisien. Et on peut aussi jouer avec l'extraction, avec le « c'est ». C'est la veille au soir que Blanquer a dévoilé son plan de rentrée. Cette opération-là, elle est aussi appelée focalisation. Elle permet de mettre le focus sur ce qui est extrait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette focalisation sur un élément l'oppose implicitement à d'autres possibles. Par exemple, c'est dans le Parisien, un journal payant, que Blanquer a annoncé son plan de rentrée, et non par voie professionnelle. Et ces tournures sont bien décrites par les grammaires, mais elles sont quelquefois stigmatisées parce qu'elles sont majoritairement orales.
On ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes.
Hein. Encore lui, hein. Et Charline, vous m'aviez dit qu'on vous reprochait ces tournures quelquefois et que, oui, quand vous aviez retransposé vos chroniques à l'écrit, vous les aviez gommées d'ailleurs. Oui. Et c'est bien normal qu'on adapte son discours au code oral ou au code écrit, même si les billets de chronique, c'est complexe parce que c'est de l'écrit lu à l'oral, mais écrit tout en sachant qu'il va être oralisé. Mais bref, ouais, le code écrit et le code oral sont différents, puisque quand on lit un texte écrit, il est stable, on a le temps de le relire, de l'analyser. Mais quand on entend un discours, on doit le comprendre tout de suite. Et donc, on a besoin de ces tournures spécifiques qui vont nous aider à hiérarchiser les informations. Et à l'écrit, et donc surtout à l'oral, ces tournures emphatiques sont des ressources de la langue pour attirer l'attention de la personne qui lit ou qui écoute sur la hiérarchie des informations données. En littérature, ça peut être un effet de style. C'est par exemple assez spécifique de l'écriture de Marguerite Duras, étudiée notamment par la chercheuse Sandrine Baudrey-Luigi. Je cite un extrait dans L'amant de la Chine du Nord avec plein de détachements. Elle, l'enfant, elle est fardée, habillée comme la jeune fille des livres. Elle, elle est restée celle du livre, petite, maigre, hardie, difficile à attraper le sens, difficile à dire qui c'est. Ici, vous voyez, l'écriture bute sur le « elle » et mime une recherche, celle du mot juste, de l'identification du référent désigné par le mot. Charline, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que vous avez un petit côté Duras. On pourrait faire un petit pastiche. La chronique, elle l'a dit, Charline, chaque matin sur France Inter. Elle crie la chronique impertinente. Si ça vous plaît, on pourrait même faire du Blanquer en style Duras. Détruire, dit-il. Bref, je plaisante bien sûr. C'est très différent puisque ces tournures relèvent d'un oral esthétisé et théâtralisé chez Duras. Mais dans tous les cas, il s'agit de focaliser l'attention sur certains éléments dans un souci communicatif. Vous et puis nous, dans la vie de tous les jours, pour assurer la communication, et Duras pour l'interroger.
Merci Laëlia Véron. Laëlia, elle a fait une belle chronique.
J'adore Charline, elle montre à chaque fois qu'elle comprend bien.
Mais c'est parce que j'attends ma note et le bulletin du deuxième trimestre, bien sûr. Merci, Laëlia Véron.
Merci, Charlie.
Je signale que vous avez écrit plusieurs livres co-écrits, notamment Le français est à nous ou Parler comme jamais avec votre co-autrice Maria Candéa, et que Maria fera une présentation de ses livres à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, le 14 janvier à 18h. On salue le libraire de la librairie Larcelet.
Tout à fait, là-bas. Merci.
Voilà, ben, je vous en prie. Allez, on est en compagnie notamment de Lucien Jean-Baptiste qui a bien noté tout ce que vous avez dit. Hein,
oui. Les dialogues. L'oralisation de l'écrit, si ouais. C'est pas du Césaire, ça.
Ah non, maintenant on dit du. Comment s'appelle la dame Taubira.
Allez, on va réécouter Raphaël Sadik, Stone Rolling sur France Inter. S'appelle Par Jupiclas, il y a des chroniques littéraires, du violon, du cinéma, de la linguistique et de l'information aussi avec Alex Vizorek.
C'est dommage d'avoir une journée où on va perturber davantage le système. Moi j'invite à l'apaisement, au sang-froid. Je sais que c'est dur, mais c'est pas une grève qui résout les problèmes, on fait pas une grève contre un virus.
Le journal de presque 17h17.
Le bon violence flamme toujours efficace.
Et on commence par les titres.
Alors qu'un mouvement social dans les écoles est prévu demain, Jean-Michel Blanquer a déclaré, donc, on ne fait pas une grève contre un virus.
Aujourd'hui, les enfants, dans Par Jupiclas, on va apprendre un nouveau mot, le déni. Action de ne pas vouloir reconnaître la réalité. On parle aussi de dénégation ou de faire une Jean-Michel Blanquer.
La grève s'annonce très suivie et la moitié des établissements scolaires seront fermés.
Et ouais, on pourra dire ce qu'on veut, mais grâce à Jean-Michel Blanquer, demain, le virus devrait beaucoup moins circuler dans les écoles.
Parce qu'il y aura des brèves.
Les brèves s'annonce très suivi aussi, Charline, et faudra pas attendre demain. Parce qu'elle vont arriver à la fin du journal.
Oui, c'est pour ça.
Allez, on commence par Valérie Pécresse.
Oui, souvenez-vous, c'était il y a quelques jours, elle a dit ceci.
Il faut ressortir le Karcher. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers
Bam! Et suite à ça, le groupe Karcher a demandé à Valérie Pécresse
de cesser immédiatement tout usage de sa marque.
Valérie Pécresse, elle n'est pas encore présidente, qu'elle se brouille déjà avec les Allemands. C'est pas bon signe.
Ouais, mais alors qu'est-ce qu'elle va dire?
Ben, pas le choix. À l'avenir, Charline, Valérie Pécresse devra plutôt dire on veut nettoyer les banlieues au vinaigre blanc et au bicarbonate de soude. Voilà, au moins c'est libre de droit.
C'est vrai. Et plus écolo.
Ouais, et plus écolo.
Et cela lui a peut-être servi, car selon un nouveau sondage, pour la première fois, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se retrouvent à égalité au second tour.
Et chapeau à lui, parce que c'est bien la seule fois durant le quinquennat qu'on peut dire que Macron a obtenu un résultat concret en matière d'égalité homme-femme.
En revanche, à l'extrême droite, et pour oui. Marine Le Pen, je la cite, Valérie Pécresse est l'actionnaire majoritaire d'Éric Zemmour.
N'importe quoi. On sait tous bien que c'est Vincent Bolloré, l'actionnaire majoritaire de Zemmour, et qu'au conseil d'administration, il y a Pascal Praud et Cyril Hanouna. Oui.
Quant au président, il a déclaré lors de ses vœux à la presse, il faut rebâtir l'esprit des Lumières dans le numérique.
Ouais, tu m'étonnes. Il suffit de passer 5 minutes sur Twitter pour se rendre compte que dans le numérique, il y a encore pas mal de trucs à reconstruire. On se croirait à Alep.
On passe maintenant à une page Covid pour l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est pas viable.
C'est tellement la merde en ce moment que l'OMS est en train de virer anti-vax. Je ne sais plus quoi faire.
Sport maintenant, oui, avec sport. La fameuse saga de l'Open d'Australie. Selon une enquête du journal allemand Der Spiegel, le test positif de Novak Djokovic aurait été antidaté afin que le joueur serbe puisse recouvrir plus vite la liberté.
Et ouais, ça c'est la grande différence entre Djokovic et les tennisman français. Avec Djokovic, quand on parle de résultats bidons, et ben c'est le test PCR.
Et oui, Djoko qui a fait son mea culpa en déclarant avoir commis, je le cite, une erreur humaine, certainement pas délibérée.
Oui, vu que ses excuses ressemblent fortement à celles de notre président en décembre dernier, Djokovic, il aurait pu ajouter « et j'ai envie de bien emmerder les vaccinés
». Musique maintenant, le rappeur Kanye West veut se produire en Russie et rencontrer Vladimir Poutine.
Voilà, et pour froisser personne là-bas, il se fera appeler Kanye East.
Parce que, là,
il faut avoir un peu de culture. Bien sûr.
C'est de la géopolitique.
Oui, bien sûr. Ça, je peux dire que Pierre Aski, s'il écoute,
il s'est régalé.
J'attends, moi, parce que ça peut durer très 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 longtemps. Et je suis sûre que l'auditeur, derrière son poste, il se fait « Ok, il est parti. »
Il rit encore à la vanne.
Il rit à sa vanne, ça peut durer très longtemps. Il fait des monologues, en fait. Et je me dis, l'auditeur se demande à quel moment ça s'arrête. L'auditeur se dit « Charline, fais quelque chose. » Et là, j'interviens et je dis « Et des brèves. »
Vous éteignez au chalumeau. Alors, un Belge a été arrêté en trottinette électrique alors qu'il était en train de circuler sur une autoroute en France. Je me demande si ça commence pas à faire un peu trop au niveau com pour Stromae.
Non, on fait dans la sobriété, pas de commentaires.
Bah parce qu'on allait rire. Il faut pas ramer pour aller chercher. Voyez.
Allez, la dernière.
Et la dernière, attention. En Grèce, tollé après le tournage d'une scène de sexe gay sur l'Acropole d'Athènes. Je vais vous dire, je suis quand même patient de le voir, ce film. Acropole, bien sûr.
Oui, j'attendais pour lancer le jingle, je me disais c'est bon.
Est-ce que vous voulez que je l'explique, celle-là?
Non, c'est bon.
C'est bien.
C'est bon. Et puis d'ailleurs, elle permet une transition aisée avec ce qui va suivre.
Sérieusement?
On peut parler de...
De classicisme?
De passe décisive.
De classicisme, l'Acropole d'Athènes, la littérature classique. Bien sûr. Juliette Arnaud, et oui, vous avez cette douloureuse tâche de nous faire oublier ce jeu de mots sur Popol, avec la suite de la lecture d'un roman, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, roman de Selma Lagerlöf. Alors l'histoire, c'est Nils qui a 14 ans, il aime boire, manger et faire des bêtises dans la ferme de ses parents où il embête les animaux. Et un jour, il va ennuyer plutôt un lutin, et ce lutin va transformer Nils en lutin aussi, en tout petit minuscule personnage créature, qui va s'accrocher à un jar, l'oiseau, qui va s'envoler avec Nils alors qu'il se déteste. Et alors vous nous aviez dit, Juliette, ça va le rendre meilleur, et aujourd'hui on devrait comprendre comment.
Donc Nils, il vole, là il y a.
Bien joué Juliette.
Il a la taille d'un pouce, certes, mais vu qu'il a lié son destin au jar blanc séditieux, dont le programme est en deux points, refus de la vie domestique, mener la vie aventureuse et mouvante des oies sauvages. Et donc Nils est cramponné aux plumes douces et chaudes du jar et Nils vole. Énorme kiff. À preuve, c'est quand même le rêve le plus agréable de la vie. Voler, être allégé, libéré, muni d'ailes ou en toute simplicité, juste un bras en avant tel Superman et hop, ça part. Mais ce n'est qu'un rêve. Et tu te réveilles et ton ministre de tutelle, c'est toujours Jean-Michel Blanquer. Bonne journée de grève à toutes et à tous demain. Niels, lui, donc, il vole vraiment et Niels kiffe. D'autant que suite à la malédiction du tonte, alors qu'il se prononce Tom T, merci Pauline, auditrice qui vit en Suède. Donc, grâce à cette malédiction, Niels est devenu également bilingue en langue animale. Niels peut ainsi dialoguer avec toute vie animale. Il peut donc entendre et comprendre sa bande d'oies sauvages se moquer des animaux domestiques restés à terre, parce que ça les fait marrer. Les oies, quand elles passent par exemple au-dessus d'un château rutilant, de cacarder. Oui, les oies, ça cacarde. Donc elles cacardent aux chiens de garde. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite baraque? Et évidemment, le chien de s'étrangler de rage et de les traiter de mendiantes et de vagabondes. C'est tout de même étrange, ce livre, qui était un livre de commande, je le rappelle, à destination des élèves suédois pour leur apprendre la géographie de leur pays, ses mœurs et ses légendes, et qui, au centre, place des voyageuses. Oui, donc ça fait sens, mais donc des sans-domicile fixe, des bohémiennes. C'est quand même étrange, cette écrivaine qui fait dire à la chef de la bande des oies, la centenaire Aka, « On m'a enseigné à craindre tout ce qui est homme, grand ou petit. » Ou encore, « Quand une espèce animale s'éteint, c'est en général la faute des hommes. » Ça, c'était en 1906, bien avant la naissance d'Hugo Clément. Niels, pour la première fois de sa vie, écoute enfin de toutes ses oreilles ce qu'on lui dit. Et il a intérêt, c'est une question de survie pure et simple. Désormais, il mesure quelques centimètres de haut. Et cette vie de bohémienne, il la veut, Niels. Il la veut aussi fort que Sophie Marceau veut l'agrégation dans le film L'étudiant de Popinotto. Cette vie aventureuse, certes, mais dure, mais âpre. Cette vie de mouvement, certes, mais d'apprentissage quotidien. En gros, Aka, elle a deux règles. Elle lui dit à Niels, les vrais oies sauvages doivent apprendre à se nourrir d'air et à boire du vent. Voilà, c'est pas le gros confort. Et plus on fait de rentrer de choses dans une tête, plus il y a de place. Mais Niels quand même va s'entêter et il annonce son projet de vie, son plan de carrière à Aka et au Jar Blanc. Il dit « Je ne veux pas redevenir un homme, je veux vous accompagner en Laponie ». Et Aka va dire « Ok ». Personne ne relève, parfait. Sinon, il n'y a pas de merveilleux voyage à travers la Suède. Mais il va falloir trimer, parce que Niels, il avait super mauvaise réputation auprès de tous les animaux, et avec sa taille, il est désormais un gibier potentiel pour à peu près n'importe qui. Alors Aka le conseille. Elle lui dit, essaye de te mettre en bon terme avec les petits animaux des bois et des champs, les écureuils, les lièvres, les pinsons, les mésanges, les alouettes. Eh bien, vous savez comment on appelle ça, les enfants? Un syndicat. Bonne journée de grève demain. Bizarre, autant qu'étrange, ce roman éducatif, à la fois écologiste et gauchiste. Mais il est bien plus que ça, ce livre. Parce que Niels apprend, et puis toi aussi, lecteur ou lectrice, Niels entend les légendes de son pays, toi tu les découvres, et au fond de ton cœur en hiver, tu te fais une promesse. Toi aussi, quand l'hiver déclinera, mais pas assez vite, tu feras comme les écolières et les écoliers suédois, et à la nuit de la Saint-Valpurgis, tu feras un tas de bois mort, et puis tu feras un beau feu pour venir en aide au printemps, afin qu'il soit au rendez-vous pour faire éclore les bourgeons et développer les feuilles. Reste la question de savoir si Niels aura envie de redevenir un être humain. Moi, perso, ça va, je suis au courant. Merci.
Juliette Arnaud, merci pour ce joli choix de littérature classique suédoise. Lucien Jean-Baptiste, vous êtes un grand lecteur, vous ?
J'essaye. Ouais. J'essaye. Déjà, du fait de mon métier, avec tous les scénarios à lire, tout ça. Après, je suis comme beaucoup de gens, culpabilise beaucoup parce que je manque au niveau des classiques. Mais je lis beaucoup quand
c'est
même.
C'est pas bon, la culpabilité.
Ouais, mais bon, ça aide. Comme ça.
Écoutez, les chroniques de Juliette.
Je vais dormir une heure de plus.
Ça fait des fiches de lecture. On continue en mode classique, Alex ? Musique classique.
Oui, elle va sortir son instrument et c'est toujours un grand moment d'émotion, c'est Marina Chiche.
Avant Noël, Guillaume Meurice m'avait traité d'André Rieu des Calanques.
Oh non, ça m'étonnerait ça.
Alex, c'est depuis le début de la chronique, ne rate pas une occasion non plus d'évoquer son idole aux cheveux longs. Mais non, André Rieu n'a ni le monopole du violon, ni celui de la valse. J'ai donc décidé de vous envoyer valser aujourd'hui.
Très bien.
En plus, c'est la saison à Vienne, avec les bals et l'incontournable concert du Nouvel An, qui est quand même l'émission de musique classique la plus regardée au monde. Allez savoir pourquoi. Lors de ce fameux concert, on y joue des valses de Strauss, père et fils, c'est une dynastie pleine de rivalité, mais aussi des polkas ou des marches, comme la célèbre marche de Radetzky. Vous avez ? Ça vous dit quelque chose ?
Oui, ça fait Jordan.
Vous l'avez ?
Oui, bon, voilà. Okay, on a.
Alors là, la marche, c'est à deux temps. C'est logique, parce que le but d'une marche, c'est de faire marcher. Donc, à pas régulier. Droite, gauche, droite, gauche. Non, c'est pas politique. Et donc, c'est ce qu'on appelle une métrique binaire. Pour une valse, c'est différent. C'est une danse où on tourne, c'est une autre chorégraphie. Donc voilà comment ça peut sonner. Wow. Donc là, on est sur combien de temps?
Trois, madame.
Il a potassé, mais c'est ça quand on est fan d'André Rieu. Je sais que certains Belges pensent que la valse est à 1000 temps, mais non, elle est à 3 temps. C'est ce qu'on appelle une métrique ternaire. On divise chaque mesure en 3. Alors, ce que je voulais vous faire entendre, c'est que dans l'accompagnement, et même dans cette musique, on a des temps forts et des temps faibles parmi ces 3. Donc si je vous joue l'accompagnement arrangé au violon, ça ferait ça. Donc on a un temps fort et deux faibles. Le temps fort, c'est celui où on va s'appuyer. En fait, si dans la chorégraphie, c'est là où on va prendre l'élan, on va poser le pied, c'est l'appui. Il permet de lancer la machine. Alors pour la mélodie que je vous jouais tout à l'heure, c'est une valse de Kreisler. Dans la mélodie, vous avez vu, on commence pas tout de suite sur le temps fort. On est dans la levée. On appelle ça une levée. On a le pied en l'air juste avant de faire boum. Vous allez chanter boum. Allez-y, on essaye. Il était là. Vous voyez, il y a un papapam, ce qu'il y a en avant, c'est la levée. Donc c'est avant qu'on atterrisse. Alors avec la valse, il existe une tradition orale pour interpréter et recréer cette mobilité qui fait tourner. Notamment dans l'accompagnement. Vous l'avez entendu déjà tout à l'heure, au lieu de scander 1, 2, 3, 1, 2, 3 de manière très rigide et égale, on rapproche légèrement le deuxième temps du premier et on éloigne le troisième. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je le refais au lieu de faire. On fait un. Vous voyez, ça provoque un petit swing comme ça. Et ça, les Viennois sont des maîtres dans cette affaire-là. Il faut savoir que Strauss, sur la partition, lui, il écrit 3 temps bien égaux. Donc ça, c'est vraiment un concept important en musique. C'est la différence entre la notation de la musique et son interprétation. C'est ce que nous disait Laëlia tout à l'heure, c'est l'oralisation de l'écrit. Voilà pour nous ce qui se passe en musique. Alors, c'est le concept de rubato aussi, notamment pour la mélodie. Alors, je vous avais dit déjà qu'on parlait souvent italien en musique classique. Rubare, ça veut dire dérober, voler. On vole du temps. Oui, les musiciens sont des voleurs, mais ils rendent. On vole du temps quelque part et on le rend aussitôt pour retomber sur nos pieds. Donc, c'est exactement cette manière de jouer non rigide avec le rubato, donc pas avec le métronome 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais d'amener ce swing.
Alors maintenant, Marina, on a envie d'avoir un aperçu de votre interprétation. Alors on va vous entendre jouer, je propose « Schön Römerin » de Fritz Kreisler et vous êtes accompagnée au piano par Aurélien Pontier. Thank you.
venons d'écouter Chenron Marin de Fritz Kreisler, bien sûr, Marina Schiff au violon, Aurélien Pontier au piano. C'était un extrait de votre album Postscriptum. Et vous serez en récital le 2 février à 20h au Collège des Bernardins à Paris. Marina Schiff, merci pour ce tuto violon. Alex, que se passe-t-il dans la suite?
On a entendu Marina, on a entendu Juliette, on a entendu Laëlia. Il nous reste encore Rukiata et Lucien Jean-Baptiste en masterclass de cinéma. Mais avant ça, la masterclass d'éducation citoyenne à l'attention des enfants trotskistes. Et c'est Guillaume Meurice.
De la rééducation, voilà. Précisément. Alors, les enfants, on va étudier ensemble le protocole sanitaire à l'école. Il se trouve qu'à la base, je voulais demander à Jean-Michel Blanquer, mais il n'est pas dispo. Ah, il n'est pas dispo, puisqu'il prépare un colloque sur le lien entre les nazis musulmans et l'écriture inclusive. Donc, je vais pas un peu partout, le gars. Je voulais aussi demander directement à ceux qui rédigent les protocoles sanitaires, mais la moitié est en burn-out et l'autre moitié est en fait une intelligence artificielle, mais programmée par Marlène Schiappa. Donc ça s'annule en fait, hein, si vous voulez. Jean-Luc Lahaye m'a dit, bah, si tu veux, je peux te répondre, je passe pas mal de temps à l'école. Non, Jean-Luc, rapport à tout ce qui est procureur de la République. Alors je suis allé demander leur avis à ceux qui le subissent, ce protocole, les enfants. Et je suis allé voir des anciens chroniqueurs de chez nous, qui vont encore à l'école. Je parle pas de Marie Lachiche, qui est en train de redoubler la Catherine Lara Academy. Je parle d'Alfred et Gaston, nos deux anciens chroniqueurs cinéma, les enfants de Thomas Croisière. Voilà, Gaston est en CM1, Alfred est en 6e et ils m'ont bien expliqué d'abord les gestes barrières.
Alors, les gestes barrières, c'est respecter 2 mètres de distance, je crois, parce que ça s'est amélioré.
Non, c'est surtout qu'en fait, les gestes barrières, faut les mettre dans un pré et après tu mets des vaches à l'intérieur.
Voilà, alors j'ai précisé les enfants de Thomas Croisière. Donc l'humour de Thomas Croisière, hein, bien sûr. Parce que tout ça, c'est génétique, hein, on sait que ça se transmet, on sait que le papa d'Alex adorait les brèves, acropopole, etc. J'ai d'ailleurs lancé l'opération une vasectomie pour Visorec, pour briser un petit peu cette chaîne infernale. Mais revenons à l'essentiel, qu'est-ce que le protocole en fait?
Déjà, quand on rentre en classe, on doit mettre du gel.
Ouais.
On fait des tests salivaires, souvent.
Souvent, c'est-à-dire?
Souvent, c'est-à-dire tous les 3 mois,
par exemple. Ah oui, de temps en temps, ils vous disent test salivaire et
tout le monde... C'est ça, il faut s'inscrire 4 jours avant, tu vois.
Ah, faut s'inscrire pour faire le test salivaire?
Bah ouais.
Alors là, moi, si j'étais un virus, je flipperais. Hein. Oh la vache, test tous les 3 mois, inscription à l'avance, c'est vraiment l'équivalent de vider l'océan avec une passoire ou jouer au squash avec une biscotte. C'est marrant parce qu'on a la même stratégie avec le virus qu'avec les Allemands en 40. On a dit non, c'est bon, on a construit la ligne Maginot, c'est bon, passeront pas les gars. On n'avait pas pensé qu'ils avaient un GPS en fait sur les Panzers. Hein, on n'avait pas le côté bison futé, on était bison pas très futé. Alors on continue, comment on fait quand il y a un cas positif dans la classe?
Quand il y a un cas de Covid dans la classe, déjà on doit tous se faire tester et ça c'est bien énervant.
Ok.
Et en fait, s'il y a plus de 3 cas positifs, ben on est en confinement.
Ah, il faut 3 cas positifs, d'accord.
Ouais.
Ah, c'est technique. Et ça a peut-être changé.
Avant, c'était 1 cas, maintenant c'était 3 cas, après ça a été 2 cas, après ça a été 5 cas, et là c'est 3 cas.
Alors, ça a encore changé. C'est là où Jean-Mi, il est quand même fort. Parce que d'un coup, il peut changer les règles du jeu, et ce qui est marrant, c'est qu'il est ministre des sports aussi. Et donc, le gars, il peut changer les règles, tu vois, il peut dire dans un match de foot, tap, c'est plus le nombre de buts qui compte, c'est la position de balle. Ça changerait quelques trucs. Voilà, il est comme ça, Jean-Mi. Alors, est-ce qu'au moins le protocole qui change tout le temps est respecté à l'école?
Le protocole sanitaire n'est pas extrêmement respecté, on va bien se le dire. À la cantine, bah, c'est pas mieux qu'en primaire, hein. On est collés les uns aux autres. Bon, heureusement, parfois, il y a quelques quinconces, tout ça.
Est-ce qu'il y a des frites à la cantine?
Non.
Ah voilà, Alors, je sais qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il n'y a pas de frites à la cantine, c'est de la maltraitance. Il n'y a pas de variant belge pour l'instant, on peut remettre des frites à la cantine, c'est n'importe quoi. Bon, heureusement que les profs sont responsables, notamment une prof qu'Alfred adore. Pourquoi?
Elle adore ouvrir les fenêtres pour nous geler, et après elle fait « Oh là là, pourquoi vous prenez des manteaux, c'est n'importe quoi, et tout ça ?»
Il paraît que c'est bien d'ouvrir les fenêtres et
oui,
tout.
Oui, c'est très bien. En fait, il y a des portes vitrées qui donnent sur la cour, en
ouais,
fait.
Ouais, en fait, elle... Mais là, maintenant, bizarrement, elle les referme quand elle a su qu'il y avait des rats dans la cour.
Ah, il y a des rats dans la cour?
Ouais.
Alors, j'ai dit qu'on prenait les problèmes un par un, donc on peut pas tout faire. Les rats dans la cour, hein, ça c'est un Hidalgo. Elle peut pas traiter le problème parce qu'en ce moment, elle est en plein chemin vers la gloire. Bon, elle a pris un peu de retard sur tout ce qui est gloire, mais ça va marcher, comme l'a très bien titré Denis Magazine. En tout cas, demain, c'est la grève des profs. Je sais pas si on l'a dit depuis le début de l'émission, mais il y a une grève, des profs avec des manifs, les profs en ont marre. Est-ce que la prof de Gaston fait grève? Est-ce qu'il a école?
Non, j'ai pas école.
Ah, voilà. Tu vas rester au chaud?
Oui, parce que je vais écrire mon roman.
T'écris un roman ?
Oui, ouais. On écrit tous les deux des romans sur Jean-Michel Blanquer.
Ah voilà, les enfants sont merveilleux. J'ai hâte de les lire ces romans parce qu'il y en a des choses à dire, voilà, sur ceux qui préfèrent fantasmer une école de réac plutôt que de régler les problèmes, le manque de moyens, non remplacement des profs, le mépris des enseignants et des élèves, non seulement le mépris de classe, mais le mépris de ce qui se passe dans les classes.
Merci Guillaume Meurice, Blanquer t'es foutu, Alfred et Gaston sont dans la rue. On les embrasse très très fort d'ailleurs. Merci à eux. On va passer aux exercices, Alex.
Mais oui, les soldes commencent aujourd'hui. Alors, on va faire un exercice de mathématiques pour ne pas rater les soldes. Sachant qu'un programme politique se revend sur le bon coin à 100 euros. Combien faut-il sortir d'argent pour acheter le programme de toute la gauche? Sachant que le programme de Yannick Jadot coûte deux fois moins cher car il est imprimé sur papier recyclé.
Ah oui.
Que le programme d'Arnaud Montebourg est à moins 70% avec la possibilité d'un paiement en quatre fois. Que celui d'Anne Hidalgo est à moins 90% car on ne trouve pas vraiment preneur. Et que celui de Christiane Taubira n'est pas soldé car il est neuf, jamais sorti sous blister. Et puis personne ne l'a jamais vu. Avec tout ça...
Petit calcul,
que les
bien sûr. On va faire un exercice un peu utile. Hein. Donc, quel est actuellement le protocole sanitaire à l'école? Y répondre. Voilà. Petit A. Alors, pour le moment, nous ne l'avons pas, car la NASA est en train d'essayer de le déchiffrer. Petit B. Pour comprendre la procédure, le gouvernement a créé un numéro vert. Petit C. Alors, il faut faire deux tests antigéniques s'il y a un cas positif dans la classe, sauf si la pression atmosphérique est inférieure au taux de mélanine dans le corps du prof principal s'il porte une moustache et des coudières en cuir à sa veste. Petit D. Il faut faire trois tests antigéniques et attendez, parce que Véran est en train de parler. Maintenant c'est 4. 4. Donc 4 tests antigéniques. Oh, pardon. Castex vient de prendre la parole. Et c'est de nouveau 3. Voilà. Attendez, le patron du MEDEF. Ah non, là, rien à voir.
Ça va vite.
Allez, c'est compliqué Guillaume. Aujourd'hui, les exercices.
Les exercices sont pas faciles.
Alors, vous l'avez entendu, ce coup de théâtre incroyable dans la campagne. Guillaume Pelletier a rejoint l'équipe de Zemmour. C'est la folie, moi j'en reviens pas toujours. Alors, c'est pas la première fois qu'il change de parti. Alors, parmi les infos suivantes concernant donc Guillaume Pelletier, lesquelles sont vraies? Réponse A, proposition A, Guillaume Pelletier a connu plus de partis politiques qu'il a eu de victoires électorales. Proposition B, Guillaume Pelletier a été 3 ans président des girouettes identitaires. Proposition C, Guillaume Pelletier fait un concours avec Aurore Berger, un cours de retournage de veste, bien évidemment. Et proposition D, selon un sondage, personne ne sait qui est ce Guillaume Pelletier.
De bien beaux exercices, comme on aimerait en entendre plus souvent, et qui sont sur la page Facebook de Par Jupiter. Alors, en attendant, tout à l'heure, on va entendre Lucien Jean-Baptiste, un disque aussi également, mais voici celle qui vient de remporter le prix coup de cœur de la Fondation des femmes. Elle remporte plein de prix et pourtant elle ne nous coûte pas plus cher.
Il faut qu'on discute, ma sœur.
Syndicat.
Alors, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé en sortant de la maison de la radio la dernière fois qu'on s'est vus. Vous vous souvenez, j'arrivais directement de Dakar sans même avoir pris le temps de passer chez moi poser mes valises. Donc, quittant France Inter, après ma chronique sur le Tchapudjen, j'ai pris mon train de banlieue pour rentrer à la maison après plusieurs semaines d'absence. J'ai pas fait attention, mais gare après gare, le train se vidait et je me retrouvais seule quand le train arriva à destination. Marchant dans ma petite bourgade, je n'ai vu personne dans les rues. Les boutiques étaient toutes closes, la place de l'église était déserte. Même le bar PMU était fermé. Une voiture était arrêtée en travers de la rue. Puis une autre un peu plus loin avec les portières ouvertes. Des volets battaient dans le vent froid de l'hiver. La porte du salon de coiffure était ouverte. Je suis rentrée pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne. J'ai appelé, pas de réponse. Plus j'avançais vers ma maison et plus un sentiment de terreur m'envahissait. Ma bourgade était devenue une ville fantôme. Arrivée devant chez moi, je trouvais la porte entrouverte. Effrayée à l'idée de ce que j'allais trouver, j'entrais silencieusement. Mes oreilles étaient à l'affût du moindre petit bruit. La télévision était allumée dans le salon. Avais-je oublié de l'éteindre avant de partir au Sénégal? Impossible, je ne regarde jamais ce truc. Je progressais en rasant les murs vers le salon. Soudain, mon sang se figea quand un bruit de bouteille se fit entendre dans la cuisine. En glissant un œil dans l'encadrure de la porte, je vis un Covid visiblement alcoolisé en train de faire son choix dans mes bouteilles de vin. Il y avait déjà 2 ou 3 cadavres vides par terre. Je remarquai alors 2 Covid le cul par terre, adossés au mur, en train de ronfler comme des vieux pochetrons. continuant à progresser jusqu'au salon. Je vis 5 Covid affalés sur mon canapé, les pieds sur la table basse en train de mater un match de football. Cannes. C'était des variants africains. En mangeant des arachides, tandis qu'un 6e, sûrement l'intellectuel de la banne, auscultait ma bibliothèque. Toujours en rasant les murs, je me dirigeais vers ma chambre où je savais que je pouvais trouver une bombe anti-moustique. On ne sait jamais, ça peut servir. Là, je me figeais devant le spectacle affligeant d'une bande de Covid en train de copuler sur mon lit et de se reproduire à une vitesse inouïe. Une sorte de grand prêtre les encourageait en bantant la cadence avec un gros tambour. Hardi, mes frères et sœurs, ne ménagez pas votre peine. Demain, nous serons les maîtres de cette planète. Hypnotisé par ce spectacle consternant, je ne remarquais pas qu'ils étaient tous tournés vers moi sans cesser leur activité. J'étais repérée. Tous les Covid se sont lancés à ma poursuite. J'ai couru comme une folle jusqu'à la pharmacie dans l'espoir de trouver des vaccins avec l'idée de m'en coller 10 dans le bras. Mais là, je suis tombée sur une bande de Covid engagée dans une partie de fléchette avec des seringues. Et aussi se sont précipités sur moi. Alors j'ai couru à travers champs et à travers bois pendant une semaine, jour et nuit, pour leur échapper. C'est ainsi que je suis arrivée ici, à France Inter, dans l'espoir de trouver de l'aide. Oh. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Charline? Vous avez une drôle de tête toute ronde avec plein de petites trompettes dessus. Et vous aussi, Guillaume. Oh non, pas vous, Juliette. Oh, au secours, vous êtes tous des Covid. Bon ben voilà, c'était le burn-out de Rukyata Wedrago.
Mais quelle imagination, ça va vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez bu à Dakar?
On est plutôt là, ou fumé.
Alex m'a donné quelque chose tout à l'heure, mais je ne sais pas ce qu'il a eu de là.
Là, autre chose, non. Bah, c'est du belge, alors faites tourner. On écoute Feu Chatterton, cristaux liquides. Ben, ne les avalez pas. Hein.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi? Si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Assoiffée de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il celui auquel on sacrifie? Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise.
Vous écoutez France Inter et la classe de par JupiClass, c'est aussi d'avoir une Jupi Masterclass de cinéma. Et elle vous est proposée aujourd'hui par notre guest, Lucien Jean-Baptiste. Quel plaisir, on vous écoute.
Eh ben, c'est un plaisir également. Allez, c'est parti pour l'oralisation de l'écrit. C'est bien ça? Je vais essayer. Alors, vous connaissez tous l'expression « avoir un physique de radio ».
Ouais.
Je vous comprends. Les dames ici présentes, voilà, c'était pour les mecs. Allez, mais avoir un physique de radio, ce n'est pas qu'avoir une belle voix et un physique disgracieux. Non, à la radio, contrairement à la télé ou au cinéma, la différence de physique ne crée pas l'inégalité des chances. La radio, c'est la fin de toute forme de discrimination, je savais que j'aurais un problème avec celui-là, liée à votre apparence physique. Ainsi, en radio, vous pouvez être un nain, enfin une personne de petite taille, et animer une émission sur le basket sans avoir peur du ridicule. Être blonde et parler de physique quantique. Ok, vous avez compris ?
Attention !
Bien.
Je dis ça parce que je l'ai déjà fait et j'avais pris des projectiles.
C'est vrai. Je me bats pour les femmes, je me bats pour toutes les minorités. Bref, là, normalement, Charline vous dit « Mais Lucien, le cinéma dans tout ça !»
Voilà.
C'est pas grave. On est en plein dedans, Charline, et vous allez comprendre pourquoi. Vous m'avez demandé de choisir un film lié à un souvenir d'enfance, un film qui m'aurait marqué. Eh bien, ce film, c'est un film de 1932, Les Dix Petits Nègres. Non, je plaisante, parce que je sais qu'on ne peut plus rien dire, donc je le dis. Allez. C'est un film de 1932, réalisé par Wood Bridge Strong Van Dyck. Les Belges comprendront la subtilité de ce nom. Wood Bridge Strong Van Dyck, ok. Dont le rôle principal est tenu par Johnny Westmuller. Vous l'avez deviné, il s'agit de Tarzan. C'est magnifique. C'est peut-être le film qui m'a fait le plus réfléchir à ces questions d'identité et de représentation des minorités. Je vous remets dans le contexte. Voilà. J'ai 7 ans. Fraîchement débarqué de la Martinique, ma mère, mes deux frères, mes trois sœurs et moi, nous nous entassons avec bonheur, chaleur et espoir dans une chambre de bonne à Paris. Mais ne sortez pas les mouchoirs, c'est le bonheur. Car dans notre réduit, nous avons la télé. Eh oui, en noir et blanc, l'ORTF, une seule chaîne. Oui, alors, car comme beaucoup de gens, mon premier souvenir de cinéma se passe devant un écran de télé. Générique. L'excitation est à son comble. Nous allons voir l'Afrique, terre de nos ancêtres. S'amuse ma grande sœur Suzy. Oui, parce qu'à l'époque, elle avait l'accent antillais. Bref. Le film commence. Je vois mon héros apparaître à l'écran. Il pousse son fameux cri. Aïe, aïe, aïe. Sans une fausse note, tout en se balançant avec agilité de liane en liane. Pendant 1h30, hypnotisé, je ne suis plus le petit Lulu. Je suis Tarzan, le roi de la jungle. Je vole de liane en liane, je me bats à main nue contre un lion. Et grand seigneur, je sauve Jane, l'exploratrice, ce qui, au passage, rend folle de jalousie Cheetah, ma fidèle guenon. On a grandi ensemble. À ce moment précis de ma courte existence, et comme jamais auparavant, en pleine catharsis, je me sens... Non, je ne me sens pas. Je suis beau. Je suis grand. Je suis fort. Alors pourquoi, en arrivant à l'école le lendemain matin, un de mes petits camarades m'a surnommé Cheetah ? Dans ma petite tête d'enfant, je ne suis pas Cheetah la guenon. Et je ne suis pas non plus cet horrible indigène qui meurt dès le début du film. Non ! Je suis Tarzan. Wesh ! Ils aiment bien dire ça, les jeunes. Mon camarade me dit, mais c'est impossible, car Tarzan est blanc, et toi, tu es noir. Noir comme les pygmées ? Alors, il faut savoir que les pygmées, c'était des nains blancs remaquillés, parce que les noirs, à l'époque, à Hollywood, n'avaient pas le droit de faire du cinéma. C'est important, revoyez le film. Noir comme la nuit, noir comme un vendredi ou un jeudi. À ces mots, j'ai pas su quoi répondre. Alors on s'est battu, et la maîtresse m'a puni. C'était injuste. Aujourd'hui, le temps a passé... Et mon imaginaire, comme tout le monde, est nourri par mes souvenirs d'enfance, par les Antilles, par ce que j'ai appris à l'école, par les livres que j'ai lus, les musiques que j'ai écoutées et bien sûr, par les films que j'ai vus. Et quels films ? De Sauter à Tavernier en passant par Becker, Rosanne Palsy, Duvivier, Spike Lee ou encore Happy Chapon, Vera Cetacool. Tous ces films, ce sont aussi des héros auxquels je me suis identifié. Johnny Westmuller, bien sûr, mais aussi Carrette, Noël Roquevert, Sidney Poitier, Lino Ventura, Gabin, Rocaille Ouedraolo, Ali Girardot, Omar, Jamel, Deneuve, Cotillard et j'en passe. Alors toi, minorité, si aujourd'hui tu souffres de ne pas te voir à l'écran, de ne pas pouvoir te projeter, de ne pas pouvoir t'identifier, sauf quelquefois dans Rendez-vous en Terre Inconnue, entends cette citation de René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ça c'est moi qui rajoute, je te jure, ils s'habitueront. Merci.
Voilà. Lucien Jean-Baptiste.
merci Lucien, beaucoup. C'était beau. Et alors, ouais, Lucien Jean-Baptiste, réalisateur, m'offre une réplique dans un de ses, ses courts-métrages et je rate la réplique.
On peut dire que le casting s'est mal passé. Oh,
j'étais absorbée. Vous êtes tellement une prestance de radio. Non, c'est non, ouais. Merci Lucien, on attendra votre prochain film dès que vous aurez trouvé le casting. Hein, les petites histoires de France aussi sur W9 avec vous. Merci infiniment d'être resté avec nous. Merci les amis, merci à tous. Je vous dis à demain. Nous recevrons un écrivain d'origine russe qui a écrit un temps dans Charlie Hebdo, Yegor Gran, qui propose un roman un peu provoque puisqu'il parle d'anthropophagie.
Tu m'as fait bouffer de l'homme.
Du véhicule, c'est un herbivore.